Entrevue avec Frédéric Lenoir. Présenté par Victoria Vidal.
Philosophe, sociologue, historien, auteur d'une quarantaine d'ouvrages traduits en 22 langues, dont de nombreux best-sellers, cet érudit éclectique a popularisé la philosophie pour nous initier à une sagesse de vie, détachée de tout dogme, de toute religion ou institution. En ces temps d'égarement où le repli sur soi est érigé en vertu et le cynisme porté en bandoulière, il nous exhorte, en fidèles disciples de Spinoza, à nous délester de nos passions tristes et à mobiliser les forces de l'esprit pour ordonner nos émotions et nos pensées, cultiver la joie active et la bienveillance dans le but de conduire une vie bonne et accomplie. De passage au Canada afin de présenter son nouveau livre « Philosopher et méditer avec les enfants » et lancer en corollaire un projet éducatif, la Fondation Sève, nous avons souhaité le rencontrer parce que dans le concert des incantations belliqueuses du moment, il donne de la voix pour construire des ponts plutôt que des murs, une perspective salutaire pour les générations futures. Frédéric Lenoir, bonjour.
Bonjour.
La quarantaine d'ouvrages que vous avez publiés jusqu'à présent étaient destinés aux adultes, à part peut-être un conte, Cœur de cristal,
qui était destiné aux adolescents.
Voilà. Mais avec votre dernier livre, Philosopher et méditer avec les enfants, paru aux éditions Albin Michel, vous faites carrément œuvre de pédagogie en vous intéressant aux enfants. D'où vient cette envie de transmission ?
En fait, ça fait assez longtemps que je suis convaincu que si on n'éduque pas les enfants très tôt à apprendre à penser, à apprendre à avoir un esprit critique, à développer une connaissance d'eux-mêmes, acquérir une intelligence émotionnelle, après, ça fait des adultes assez fragiles. Et donc, je crois que dans l'éducation, ce qui manque dans notre système éducatif, c'est une éducation au savoir-être et au vivre ensemble. On nous apprend les maths, la grammaire, un tas de choses très utiles, mais on nous apprend pas à être, à gérer nos émotions, on nous apprend pas le respect, comment est-ce qu'on peut s'écouter, débattre, etc. Et donc, je crois qu'il faut prendre les choses très tôt si on veut avoir des citoyens responsables, et on voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe qu'on a vraiment besoin d'éduquer les citoyens.
Oui.
Et donc c'est pour ça que je pense que l'enfant est tellement ouvert, tellement réceptif, tellement plein d'enthousiasme pour apprendre et pour développer son cerveau, son intelligence, et il a besoin aussi de mieux se connaître et travailler sur ses émotions, que j'ai eu envie de développer des ateliers de philo et de méditation avec les enfants. Et pendant un an, j'ai consacré un an à ça, et le résultat a été formidable. J'ai tellement été touché par ce qui s'est passé que du coup j'en ai fait un livre et puis aussi une fondation pour développer cette action.
Voilà, donc dans ce livre, vous racontez votre expérience d'animateur, d'atelier de philo auprès de centaines d'enfants de 4 à 11 ans pour les initier à la philo. Les philosophes antiques disaient « la seule faculté requise pour devenir un bon philosophe, c'est notre capacité d'étonnement ». Les enfants ont cette capacité d'émerveillement, sont-ils pour autant aptes à philosopher ?
Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'enseignement de la philosophie avec, effectivement, l'acte de philosopher. L'enseignement de la philosophie, tel qu'on le connaît, par exemple, lorsqu'on est en France en classe de terminale, il faut avoir, effectivement, un bagage culturel et un vocabulaire assez élaboré pour être capable de lire Aristote, Kant ou Schopenhauer. C'est très clair que c'est pas des enfants de 7 ans qui vont faire de l'histoire de la philosophie. Par contre, on est capable, dès l'âge de raison, j'ai envie de dire, dès 6-7 ans, on est capable de philosopher. C'est-à-dire qu'on est capable de s'étonner, de s'émerveiller, de se questionner et de commencer à apporter des arguments et des réponses sur les grandes questions existentielles. Et quand je fais des ateliers avec des enfants en leur posant la question « qu'est-ce que le bonheur ? Vaut-il mieux être mortel ou immortel ? Quelle est la différence entre l'homme et l'animal ? Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» Eh ben, ils apportent des réponses parfois extraordinaires que bien peu d'adultes seraient capables d'apporter. Ce qui montre que les enfants ont une capacité à philosopher. Et l'animateur n'est pas nécessairement philosophe. Alors moi, je le suis, mais on peut très bien faire un atelier sans être philosophe. Parce qu'il ne s'agit pas de transmettre un savoir, il s'agit de faire de la maïeutique socratique. C'est-à-dire, il s'agit d'aider l'enfant par des questions à accoucher de ce qu'il porte en lui comme possibilité de penser.
Voilà. Et puis, vous dites aussi que l'âge de 7 ans correspond chez les enfants à l'âge philosophique.
Oui, c'est-à-dire qu'avant, il est très difficile de philosopher, puisque les enfants n'ont pas encore développé leur cerveau préfrontal. Ils sont vraiment dans un cerveau encore très émotionnel. Ce qui fait que quand vous leur posez une question du type « qu'est-ce que le bonheur ?», ils vont répondre « c'est faire un câlin à maman ». Donc avec des enfants de 4-5 ans, on a des réponses qui sont des ressentis. Dès l'âge de 6-7 ans, on voit une évolution, parce qu'on sait que le cerveau se développe, qu'il y a une très forte production neuronale à cet âge-là. Et à ce moment-là, les enfants d'un peu plus de 6-7 ans commencent à être capables d'abstraire. Donc plutôt que de dire c'est faire un câlin à maman, ils vont vous dire c'est réaliser ses désirs, même s'ils pensent que parmi les désirs, il y a faire un câlin à maman. Mais disons qu'ils sont capables d'aller dans une universalité, dans une abstraction, ce qui est le propre de la philosophie. La philosophie, c'est pas simplement exprimer un ressenti, c'est être capable, par la raison, de s'abstraire d'une situation concrète pour la généraliser et argumenter. Donc on a des réflexions d'enfants de 7-8 ans extraordinaires. Par exemple, sur l'action du bonheur, j'ai fait un atelier avec des maternelles, on sortait pas des exemples, c'est manger une glace, c'est ceci, c'est cela. Avec des enfants de 7-8 ans, eh bien, ça vient très vite. Le bonheur, c'est la réalisation de nos désirs. Et puis, il y a un autre enfant qui va dire, non, je suis pas d'accord, parce que on est toujours insatisfait si on met le bonheur dans la réalisation de nos désirs. On veut toujours autre chose. Moi, quand j'ai un jouet, j'en veux toujours un autre. Donc, il dit, j'ai compris que si on veut être heureux, faut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Ça, c'est de la philosophie.
Et en fait, dans votre approche pédagogique, vous suivez un peu le précepte de Montaigne qui privilégiait les têtes bien faites aux têtes bien pleines. Donc, vous les incitez, en fait, à réfléchir plutôt qu'à accumuler des connaissances.
C'est le fondement même de ma démarche. C'est-à-dire, c'est de dire, effectivement, Montaigne, dont je suis un fidèle lecteur, comme Épicure d'ailleurs, nous dit qu'il faut commencer très jeune la philosophie. Parce que le but de l'éducation ne doit pas être simplement de remplir un enfant comme on remplit un vase, si vous voulez. Il ne s'agit pas de remplir sa tête, il s'agit de lui apprendre à penser. Et la tête bien faite, ça veut dire, pour Montaigne, donner à l'enfant la possibilité de juger par lui-même, être capable de discernement. Et c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Les gens n'ont plus de discernement, les ados n'ont plus de discernement, ils tombent dans toutes les théories du complot, n'importe quelle rumeur sur Internet, ils y croient. On est dans un espèce de suivisme dans lequel on peut vous faire gober n'importe quoi. Et tous les démagogues en profitent. Et donc finalement, il me paraît extrêmement important d'apprendre aux enfants à développer une pensée critique et une capacité de discerner.
Pour vous, la philosophie que vous enseignez aux enfants, c'est plus une aptitude à la vie qu'une discipline, pour résumer.
Les deux, c'est-à-dire c'est une aptitude à la vie, mais la discipline, elle vient aussi de par finalement la capacité qu'ils ont à débattre ensemble et à progresser dans une...
Je parlais de discipline académique.
Ah oui, non, c'est pas une discipline académique, effectivement. Voilà. Mais il y a effectivement... une discipline au sens disciplinaire, le sens où on leur apprend à débattre, on leur apprend à s'écouter, à lever la main, à prendre la parole pour ne pas répéter ce qui a été dit, mais apporter une pensée nouvelle. C'est un exercice qui est très organisé, l'atelier philo, mais effectivement, c'est pas une discipline académique. Et c'est ce que disaient déjà, d'une certaine manière, les écoles de sagesse grecque. Si on lit ce que nous disent les stoïciens, les épicuriens, etc., ils nous disent la philosophie, on n'est pas là pour former des spécialistes. La philosophie, elle est là pour former des êtres humains. C'est-à-dire apprendre à des êtres humains à être plus humains. Leur apprendre à penser bien pour vivre mieux. C'est plus du tout comme ça qu'on enseigne la philosophie aujourd'hui. Moi, quand j'ai fait mes études de philo, on nous enseigne la philo pour devenir un spécialiste. Alors, on va être un spécialiste d'Aristote, un spécialiste de Spinoza, mais c'est pas le but de la philosophie. Le but de la philosophie n'est pas d'être un historien. Le but de la philosophie, c'est d'être un être humain meilleur. Parce que on apprend à être plus lucide.
Et en fait, les enfants sont très lucides. Parce que moi, j'ai été très étonnée par leur réponse. On va prendre un exemple. Vous leur posez la question, quelle distinction faites-vous entre le nécessaire et le superflu? Les réponses, c'est le superflu, c'est la PlayStation, l'iPhone, le skateboard, la télé, etc. C'est quand même incroyable que ces générations nées à l'ère virtuelle, que l'on pensait en fait complètement déconnectées du réel.
Ils voient très bien.
Aussi lucides sur l'essentiel et le superflu.
Tout à fait. Ça, c'est un atelier que j'ai fait à Abidjan, dans une école d'amis très modeste. Mais c'est quand même des enfants qui ont accès effectivement à des jeux vidéo et ils vous disent très bien. Mais ça, c'est pas essentiel. Pour être heureux, on a fondamentalement besoin d'avoir un minimum d'argent pour avoir un toit, pour avoir de quoi manger, pour avoir de quoi payer l'école et les factures d'électricité. Ils disent le reste, c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est l'amour, c'est les amis, c'est faire une activité qu'on aime. Et ils savent parfaitement voir que l'argent ou le matériel n'est pas un élément fondamental du bonheur. C'est un élément qui compte pour le nécessaire. Mais après, tout le reste, tant mieux si d'ailleurs ils le disent. Tant mieux si on peut avoir aussi une télé, une PlayStation, etc. On crache pas dessus. Mais c'est pas essentiel. Vaut mieux avoir une famille qu'on aime.
Et peut-on aborder tous les thèmes philosophiques avec les enfants, même un sujet tabou comme la mort?
Je l'ai fait à chaque fois. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. C'est que généralement, quand j'arrive dans une classe, je leur dis de quoi vous voulez parler. Et je laisse les enfants très souvent choisir le thème. Et ben presque, enfin très souvent, parmi les deux trois thèmes que suggèrent les enfants, il y a le thème de la mort. Les enfants adorent parler de la mort. Tout simplement parce que c'est un sujet tabou chez les adultes, donc ils savent que si on parle de la mort avec les parents et tout, oulala, on évite, on change de sujet. Et puis ça, je dirais pas que ça les préoccupe au sens où ils sont pas angoissés du tout par la mort, mais ça les intéresse de savoir effectivement c'est quoi la mort, qu'est-ce qu'il y a après, etc. Alors du coup, moi j'essaye d'aborder la question de manière philosophique parce que je me pose pas la question des croyances, donc j'ai pas envie d'aller leur dire qu'est-ce qu'il y a après, j'en sais rien, d'un point de vue philosophique. Donc du coup, la question que j'ai posée sur la mort, c'est: vaut-il mieux être mortel ou immortel? Ça, c'est une vraie question de philo. Et les enfants m'ont stupéfait, parce que j'étais quasiment certain, vous voyez qu'on a tous des a priori, hein, même quand on est philosophe, j'étais quasiment certain qu'ils allaient tous répondre immortel. Parce que c'est formidable, on rêve tous d'immortalité. Et ben, pas du tout. Les enfants ne rêvent pas du tout d'immortalité. Et ils vous disent, par une écrasante majorité, il vaut bien mieux être mortel. Alors, quand je demande les raisons, eh ben, j'entends dire, d'abord parce que au niveau démographique, ce sera intenable. Il faut bien qu'il y ait des gens qui meurent pour qu'il y ait des gens qui naissent, sinon la Terre serait pas assez grande. Ensuite, on s'ennuierait. Si on vivait tout le temps, mais on aurait fait le tour de tout, alors qu'il vaut bien mieux avoir une vie limitée, ce qui nous permet de la vivre avec intensité. Des enfants qui vous disent, mais les méchants seraient toujours là. Napoléon ferait toujours la guerre en Europe, il y aurait toujours Hitler. Heureusement que les méchants meurent. Il y a des gens qui vous disent, les gens malheureux, heureusement qu'ils meurent, parce que si on doit être éternellement malheureux. Et puis, finalement, le fait de mourir, ça nous permet d'être dans une qualité de présence au monde, parce qu'on sait que la vie est précieuse. Et le seul argument, le seul que j'ai entendu qui revient régulièrement en faveur de l'immortalité, donc il y en a 40 en faveur de la mortalité, c'est de dire quand même, ce qui est embêtant, c'est qu'avec la mort, on perd nos proches. Et donc il y a la tristesse de perdre nos proches. C'est pas leur propre mort qui leur fait peur. Ça les inquiète pas. Ils trouvent ça naturel. Ce qui les trouble, comme chacun d'entre nous, hein, c'est effectivement la mort des proches. Parce qu'ils ont perdu une grand-mère, un chien, etc. Donc ils disent, au fond, si on était immortel, on n'aurait pas le chagrin de perdre nos proches. Mais si vous mettez dans la balance les deux choses, ils vous disent, la nature fait bien les choses, heureusement qu'on est mortel.
Alors, vous êtes le premier à avoir combiné méditation et philo pour enfants dans une même séance, je crois. Pourquoi avoir introduit la méditation dans ces ateliers de philo?
Alors effectivement, vous avez raison de dire que les ateliers philo, c'est quelque chose d'ailleurs qui existe depuis plus de 30 ans au Canada. Ça a été introduit, d'ailleurs c'est né aux États-Unis, hein, il y a une quarantaine d'années, par Matthew Lipman. Ça s'est développé ensuite sous son influence au Canada et notamment au Québec, dans le monde francophone, par Michel Sasseville. Et puis c'est des expériences qui sont très importantes, mais qui restent un petit peu marginales. Moi je me suis dit, j'ai envie de connaître ça pour essayer de le développer, de faire mieux connaître, parce que c'est tellement important. Et puis en les faisant, en essayant de philosopher avec les enfants, je me suis rendu compte qu'il y a un problème d'attention. Les enfants sont nerveux, sont dissipés, sont agités. Et moi, ça fait 35 ans que je pratique ce qu'on appelle la mindfulness, c'est-à-dire une forme de méditation. La pleine présence, exactement, d'être là, ici et maintenant, en laissant passer ses pensées, sa rumination intérieure, pour être présent à son corps, à sa respiration, à ses sensations. Et je sais que c'est très apaisant. Ça aide à s'intérioriser et à se concentrer. Du coup, j'ai fait faire ça aux enfants. Et ça a très très bien marché, partout. À tel point qu'à la fin de l'année, les enseignants me disent, mais non, on le fait tous les jours. Il n'y a plus besoin de faire de discipline extérieure. Les enfants sont agités, hop, 2 minutes de méditation. Et puis j'ai posé la question à la fin des ateliers, donc à la fin de l'année scolaire. J'ai dit, dans toutes les classes, j'ai fait 18 classes, hein, dans une dizaine de villes de la francophonie. J'ai dit à chacun des enfants, à chaque classe, qui pratique chez soi la méditation. Je pensais qu'il y aurait 2-3 élèves par classe. Et ben les deux tiers, spontanément, sans qu'on leur dise quoi que ce soit, pratiquer la méditation. Alors je dis pourquoi? Eh ben il y en a plein qui me disent, parce que quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, ben je vais méditer, puis ça me calme. Ils gèrent leur colère comme ça. D'autres qui me disent, ben j'arrivais pas à dormir, quand je médite après je dors. D'autres me disent, ben finalement quand j'arrive pas à me concentrer pour faire mon travail après avoir joué et tout, je médite, j'y arrive. Et puis il y en a certains qui disent, ben mes parents sont hyper stressés, alors je les fais méditer, ça va beaucoup mieux à la maison.
Ouais. Mais c'est formidable parce qu'en fait, vous leur apprenez à gérer leurs émotions et on sait que les enfants en ont beaucoup et vous cultivez en même temps leur relation à soi et avec la philosophie, la relation aux autres et au monde.
Tout à
donc,
fait.
Vous travaillez sur les deux
sur
aspects.
Sur les deux aspects. Voilà, c'est pour ça que l'apport de la méditation était essentiel. Ouais. Parce qu'ils gèrent leurs émotions grâce à ça et après on fait un atelier philo sur les émotions. Du coup, par la philo, ils arrivent à réfléchir sur leurs émotions et notamment, je les aide à comprendre, même si c'est eux-mêmes qui le découvrent, mais à travers le questionnement, Je les aide à comprendre que toutes les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il s'agit simplement de les gérer, de pas être... La peur, par exemple, peut vous sauver la vie, mais elle peut vous inhiber. La colère peut être nécessaire à certains moments, mais elle peut vous poser des problèmes dans d'autres. Donc la problématique des émotions, c'est juste une problématique de la gestion des émotions. Déjà, quand les enfants comprennent ça, c'est un vrai progrès pour eux. Et puis après, ils apprennent à gérer les émotions, notamment par la méditation.
Dans les ateliers philo au Canada, les enseignants s'appuient sur des romans philosophiques et des guides pédagogiques directement inspirés par les travaux du philosophe Matthew Lipman, vous venez d'en parler. Mais vous préférez poser vos questions à la manière socratique.
Oui, pour deux raisons. D'abord, je n'ai rien contre le fait de partir des romans philosophiques. C'est une méthode qu'a mis en place Lippmann. Tous les gens qui ont fait après lui des ateliers philo ont fait la même chose. Moi, j'ai expérimenté autre chose, qui est le questionnement socratique. Et je m'aperçois que ça marche très fort. C'est que les enfants, ils partent tout de suite sur des questions essentielles. Et du coup, tout l'atelier philo se fait entièrement sur le questionnement. Alors que quand vous prenez un roman de Lippmann, il faut commencer par le lire. Il faut lire des passages. Après, les enfants, ils vont collecter des questions, ils vont dire tiens ça pose des problèmes. Ça fait que les deux tiers de l'atelier philo, il est consacré à recueillir des questions et il vous reste peu de temps pour discuter. Donc moi je trouve que l'essentiel c'est de partir de la question. Maintenant rien n'empêche des enseignants dans la durée, si vous faites des ateliers philo toutes les semaines, les questions elles vont s'épuiser. Donc je pense que la méthode Lippmann, qu'on peut élargir d'ailleurs à des textes, on n'est pas obligé de lire les romans de Lippmann, on peut très bien lire une littérature jeunesse qui est abondante, elle est surtout valable à mon avis dans la durée, c'est-à-dire si vous avez une classe et que vous voulez faire toutes les semaines un atelier philo, au bout d'un certain temps, vous serez content d'avoir effectivement des ouvrages qui posent des questions philosophiques, alors que le questionnement en soi, qui est formidable, ça va très vite, c'est très efficace, au bout d'un certain temps, effectivement, vous pouvez épuiser le stock de questions philosophiques essentielles et existentielles. Donc je prône les deux, en fait.
Oui. Dans certaines écoles canadiennes, la philosophie pour enfants s'inscrit dans une démarche de prévention de la violence dans les milieux défavorisés. Il y a eu des évaluations scientifiques qui ont été faites par des chercheurs de l'UQAM pour mesurer l'impact de ces ateliers sur les aptitudes individuelles des enfants et les résultats sont probants. Renforcement de l'estime de soi, meilleure aptitude à écouter les autres et à raisonner, une capacité à contrer la violence et, comme me l'a confié une enseignante, la réhabilitation d'enfants exclus aux yeux de leurs camarades. Mais aucune étude n'a été faite encore sur le plan sociologique. Croyez-vous que cette méthode pédagogique puisse, à la longue, enrayer les impulsions violentes qui traversent nos sociétés ou est-ce trop utopique ?
Alors c'est difficile, après on peut avoir que des intuitions, on n'a pas, comme vous le dites, d'études scientifiques. Mon sentiment sur ce que j'ai vécu pendant un an, c'est que oui, on voit des élèves vraiment évoluer, et notamment, moi je pense qu'il faut vraiment associer la méditation et la philo. Les deux sont nécessaires et complémentaires.
Moi, je parle de la violence les sociétés.
Mais par rapport à la violence, je pense qu'il faut associer les deux. C'est-à-dire que je pense que pour gérer la violence des individus, la méditation et la philo sont deux réponses complémentaires et indispensables. Parce que si vous êtes que dans la philo... Alors la philo permet quand même quelque chose de très utile, c'est de créer les conditions d'un débat démocratique. C'est-à-dire vous apprenez aux enfants à s'écouter. Et ils comprennent qu'en s'écoutant, et ben finalement, ils progressent. Alors que s'ils sont enfermés dans leurs idées et qu'ils veulent pas écouter les autres, bon, ça leur apporte pas grand-chose. Mais très vite, j'ai vu des enfants qui, au début, avaient du mal à écouter, puis à force, ils se sont rendus compte que leurs petits copains, ils disaient des choses qui les faisaient réfléchir. Et à la fin, ils changeaient d'avis. Et du coup, ils prennent goût, finalement, à la discussion, à l'écoute. Et ça, c'est une formidable culture de la citoyenneté. C'est qu'on apprend à écouter l'autre et à s'enrichir du dialogue et avec l'autre. Et surtout, on apprend à argumenter. C'est-à-dire, si on n'est pas d'accord, il ne s'agit pas de simplement dire « je suis pas d'accord, point barre ». Il s'agit de dire « je suis pas d'accord parce que ». Et tout se joue là, dans l'explication du désaccord. Donc ça, la philo est très utile. Maintenant, la philo, sans le travail sur les émotions, effectivement, est insuffisant par rapport à la violence. Puisque l'essentiel de la violence vient des émotions, d'une mauvaise gestion des émotions. C'est pour ça, c'est ce que Spinoza nous dit depuis le XVIIe siècle. Spinoza, c'est le premier philosophe des Lumières. Donc c'est le premier qui dit... il faudrait idéalement un état de droit fondé sur la liberté de conscience et d'expression. Donc il a défini le politique moderne. Mais il dit ça suffit pas. Parce que tant que les individus seront mus par des passions tristes, c'est-à-dire par des émotions négatives, par leur peur, leur ressentiment, leur jalousie, leur colère, etc., ça fonctionnera jamais. Il y aura toujours de la violence dans les sociétés, y compris démocratiques. Il l'avait parfaitement anticipé. Ou alors on va élire des démagogues. Donc on voit très très bien qu'effectivement, il faut travailler sur ces émotions. On ne pourra pas éliminer le trop-plein de violence des individus sans acquérir une intelligence émotionnelle, et c'est en grande partie ce que permet la méditation.
Et d'ailleurs, j'ai remarqué dans votre livre que le terrorisme revient souvent dans la bouche des enfants, c'est quelque chose qui les touche plus qu'on le croit.
Absolument. Je sens que j'en parle, ils en parlent très spontanément. Oui. J'ai encore fait le dernier atelier de philo, je l'ai fait il y a quelques semaines. C'était pour le journal français Elle qui voulait faire un reportage dans une école, donc on a été. Et les enfants m'ont dit, on a abordé la question, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Bon, question voilà, absolument immense. Et plusieurs enfants commencent par aller vers l'idée que la vie réussie, c'est le bonheur. Donc le bonheur, c'est finalement, on a réussi sa vie parce qu'on a réussi à accomplir ce qu'on voulait faire, on a été heureux, ça veut dire qu'on a réussi sa vie. Puis un enfant qui dit « je suis pas d'accord ». Je lui dis « pourquoi ?» Il me dit « parce que les terroristes qui ont tué plein de gens, ben, ils sont morts heureux. Ils étaient heureux d'avoir tué plein de gens. Et ben leur vie, elle n'est pas réussie parce qu'ils ont, créé un mal énorme et on ne peut pas dire que leur vie est réussie. » Alors je lui dis « c'est quoi du coup pour toi le critère de la vie réussie ?» Mais il me dit « c'est peut-être d'être heureux, mais c'est surtout d'avoir fait du bien aux gens, d'avoir été utile aux autres. » Et là, toute la classe a changé. Ils ont tous dit « mais t'as raison, c'est vrai que les gens qui font du bien, on peut dire que leur vie est réussie. Alors que des heureux égoïstes, on peut pas dire que leur vie est réussie. » Alors du coup, ils ont découvert quelque chose par eux-mêmes, qui est que la vie bonne, la vie réussie, telle que le définit Socrate, c'est le bonheur plus la justice. Mais le bonheur sans la justice, c'est tout simplement de l'égoïsme. Et ça, il n'y a pas eu besoin de leur faire un cours de philosophie, c'est quelque chose qui est venu d'eux-mêmes, et l'exemple du terrorisme était parfaitement en tête pour eux, c'est-à-dire qu'on peut être heureux et faire un mal fou aux autres.
Ouais,
ouais. Un bourreau peut être heureux, un tortionnaire peut être heureux.
Ils ont vu la nuance, en fait.
Et voilà, ils rajoutent l'éthique, et ce qui, à mon avis, est très juste.
Ouais. Vous avez animé ces ateliers dans divers pays francophones, allant des milieux favorisés de Genève et de Paris jusqu'aux quartiers difficiles de Molenbeek et d'Abidjan. Avez-vous constaté des différences sur le plan des aptitudes cognitives ou morales des enfants ?
Alors, sur le plan des aptitudes cognitives, pas du tout, parce que les aptitudes cognitives sont essentiellement liées à la qualité affective qu'ont reçue les enfants. C'est-à-dire si des enfants, et on le sait aujourd'hui, les sciences cognitives le montrent de manière assez admirable, plus un enfant est aimé, plus il reçoit de la tendresse, de l'affection, etc., plus son cerveau se développe et ses capacités cognitives se développent. Si un enfant est maltraité, si un enfant manque d'amour, au contraire, ses capacités cognitives se développent pas. Si vous pouvez être né dans un milieu très favorisé, à Paris ou Genève, si vos parents sont tout le temps absents, vous les voyez jamais ou vous êtes maltraité, vous aurez plus de handicap au niveau de l'intelligence et de la capacité notamment de philosopher que des enfants qui naissent dans des milieux très modestes, qui n'ont pas forcément des parents qui ont fait des études supérieures, mais qui sont tellement aimés, entourés, etc., qu'ils ont du coup un cerveau qui s'est développé de manière très forte. Donc c'est capital de comprendre ça. C'est d'abord le lien affectif, la bienveillance qui permet le développement du cerveau. Et du coup, j'ai vu des enfants partout dans des banlieues très pauvres d'Abidjan qui avaient des raisonnements extraordinaires, des capacités de penser, de réfléchir, d'aller loin dans l'abstraction. Donc je dirais que voilà, la différence, elle n'est pas au niveau sociologique, elle est au niveau du vécu affectif de l'enfant. Après, j'ai quand même vu une petite différence, non pas au niveau cognitif, c'est que chez les enfants qui sont plutôt dans les milieux, on va dire, les plus pauvres, c'est là qu'il y a le plus d'insistance sur l'amour et la solidarité. C'est-à-dire que ces enfants vous disent, par exemple, la chose la plus importante pour le bonheur, c'est de s'entraider, c'est de partager la joie avec les autres. Alors que pour les enfants dans les milieux plus riches, on est plus sur les désirs, sur les choses un peu plus matérielles quand même. Donc on voit une petite différence qui se joue à ce niveau-là.
Votre livre est un témoignage sur cette expérience vécue auprès des enfants, mais c'est aussi un manuel d'emploi à l'intention des éducateurs, des enseignants et des parents. Vous leur donnez une boîte à outils composée de 10 recommandations, de fiches pédagogiques et d'un CD de méditation guidée. Comment peuvent-ils en tirer profit ?
Alors, je pense que c'est déjà un premier pas, c'est une première initiation possible aux ateliers philo-méditation. Je pense qu'il y a des enseignants qui sont assez débrouillards déjà, des parents qui n'ont pas trop peur, qui peuvent se lancer. C'est-à-dire qu'on peut, avec mon livre, trouver les outils pour un atelier philo. C'est-à-dire j'explique effectivement la méthodologie, je donne 10 conseils. Je vais pas les expliquer là, c'est un peu long, mais je donne 10 conseils qui sont essentiel pour faire un atelier philo avec des enfants. Je propose une vingtaine de fiches sur des grandes notions comme la mort, le bonheur, le mal, etc., qui permettent d'avoir des bases pour se lancer avec confiance dans un atelier philo, parce que vous n'avez pas besoin de philosopher, mais vaut mieux savoir de quoi vous parlez. Ouais. Ça permet de mieux relancer le questionnement. Et puis, je donne des exemples d'ateliers. Je donne une dizaine ou une quinzaine d'ateliers philo qui sont retranscrits, ce qui permet de voir l'évolution d'une discussion avec les enfants. Donc, je pense qu'avec ces outils-là, pas mal de parents et d'éducateurs peuvent se lancer. Et puis après, pour la méditation, j'explique ce que c'est et j'ai mis un CD de méditation guidée qui permet effectivement de méditer en famille ou à l'école, puisque il y a à la fois des plages collectives et individuelles. C'est-à-dire que des fois, je tutoie l'enfant, je lui dis tu te mets dans ta chambre, etc. Et des fois, je vous vois parce que c'est un groupe qui va méditer ensemble, collectivement. Et puis, j'ai fait des méditations courtes, des méditations longues, des méditations avec musique et sans musique. Donc là, je pense que pour s'initier à la méditation, c'est bien de suivre un CD. Et puis après, une fois qu'on est habitué, on n'en a plus besoin.
Oui. Vous avez créé la fondation Sève pour généraliser l'enseignement de la philo dans les écoles primaires. Par quels moyens comptez-vous réaliser cet objectif ?
Alors en fait, effectivement, une fois que j'ai vu à quel point c'était utile, important, et que ça avait du mal à se développer, j'ai compris que ça se développait difficilement parce qu'il n'y avait pas de formateurs. En fait, il y a quelques personnes qui font ça, c'est pas suffisant. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer une fondation qui est sous égide de la Fondation de France. Alors Sève, c'est à la fois la sève de l'arbre, mais ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Le but, c'est d'une part de fédérer tout ce qui existe dans ce domaine-là. Parce que vous avez un tas de gens qui font des petits ateliers méditation ou philo dans une école quelque part, personne ne le sait. Et il y a un établissement à 10 km qui pourrait dire, mais venez le faire chez nous, vous voyez. Donc je voudrais que ce soit une plateforme dans le monde de la francophonie, dans lequel on puisse mettre en réseau tous les gens qui font ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai créé dans toutes les grandes villes francophones, et je suis en train de le faire, des formations qui s'adresse à la fois directement aux enseignants et surtout on forme aussi des formateurs. Et donc il y a des gens qui sont pas forcément enseignants de métier mais qui ont un sens pédagogique, qui ont eu dans leur histoire, leur cursus, des qualités qui leur permettent de faire de la formation. Et pendant un an, à travers un MOOC, c'est-à-dire un enseignement par internet, et à travers 4 week-ends dans l'année, on forme les gens avec des stages dans les écoles, avec des écoles partenaires, pour qu'ils puissent ensuite ou faire des ateliers philo eux-mêmes, ou, ce qui est encore plus important, former des enseignants. Et on a déjà plus de 1000 personnes en cours de formation en France. Et je lance une formation à Montréal où il y a une centaine de personnes qui vont démarrer au mois de janvier. On peut encore s'inscrire parce qu'on peut faire un deuxième groupe. Et pour ça, il faut aller sur le site de la Fondation
Sève. Et peut-être bientôt dans le reste du Canada, on l'espère.
Pour l'instant, on est dans le monde francophone. Oui. Mais évidemment qu'après, s'il y a des demandes qui viennent dans le monde anglophone...
Il y a des francophones aussi hors Québec.
Bien sûr, d'ailleurs, ce sont eux qui nous écoutent.
Voilà.
Effectivement, mais il faut qu'il y ait quand même un réseau assez important. Mm. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une formation pour 5 personnes. Mm. On fait des groupes de minimum 50 personnes. Mais si effectivement à Toronto, à Vancouver ou ailleurs, on a un réseau important de gens qui se mobilisent en disant y a pas mal d'écoles francophones, on voudrait apprendre à faire des ateliers filiaux méditation, je viendrai avec plaisir.
Voilà. Alors l'émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, j'aimerais à mon tour vous poser la question que vous posez d'habitude dans vos ateliers philo. Qu'est-ce que pour vous une vie réussie ?
Eh bien, je vous répondrai exactement ce qu'ont dit les enfants. C'est-à-dire, c'est être heureux en pratiquant la justice. C'est-à-dire une vie réussie, c'est à la fois une dimension d'épanouissement personnel. Je pense que si on a souffert toute sa vie, on n'aura pas forcément envie de la recommencer, donc on ne pourra pas dire qu'elle sera forcément réussie. Il y a une dimension d'épanouissement, mais un épanouissement qui ne se fait pas au détriment des autres. Donc la justice, ça veut dire simplement le respect d'autrui. Et si on a respecté les autres et qu'on a été juste dans sa vie, je crois qu'on a réussi sa vie.
Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est fait ?
Ben écoutez, je dirais que j'ai, dans un premier temps, et on fait tout ça d'une certaine manière, j'ai cherché à atteindre des objectifs personnels. Aujourd'hui, j'ai atteint tous mes objectifs. C'est-à-dire, je vis de ma passion, j'écris plein de livres qui sont diffusés, qui font du bien aux gens, etc. et tout. Aujourd'hui, j'avais envie d'être encore plus utile à la société en ayant une action citoyenne. Et je crois que c'est ce que j'essaye de faire à travers la Fondation Sève, parce que je me dis que si tous les enfants du monde faisaient de la philo et de la méditation à l'école, le monde changera en une génération. Donc, si je peux apporter ma petite pierre pour que tout ça se développe, j'aurais effectivement eu une vie réussie.
Eh ben, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Frédéric Lenoir, nous terminons cet entretien sur cette belle pensée. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Philosopher et méditer avec les enfants, aux éditions Albin Michel, et le site web de votre fondation, fondationsève.org. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon séjour au Canada et bon vent dans vos projets. Et merci à nos amis auditeurs et à la prochaine.